Les membres du petit noyau proustien décidèrent de dîner ensemble et n'eurent que quelques mètres à faire pour se retrouver chez Benoît. Madame de Custière était accompagnée du Hollandais Oupermans, qui présidait l'équivalent de la Sempach dans son pays, le Marcel Proust Vereeniging. « Appelez-moi Jeff, » proposa-t-il aux convives. Autour de plats de bistrot, gigots d'agneau de Lozère rôtis à la sarriette, pommes de terre boulangères pour les uns. Chateaubriand au foie gras de canard et truffe noire sauce périgueux pour les autres. Ses membres ne tardèrent pas à discuter de ce qui les réunissait, un exemplaire de Sodome et Gomorre sur la nappe, sous les regards discrets mais émerveillés des clients. Ce fut appliqué. Depuis le début de la semaine, commença Madame de Custière, l'avez-vous remarqué ? Proust joue sur l'ambiguïté à propos des mœurs de Charlus. Il batifole avec en être qui, alors comme aujourd'hui, signifie chez les initiés être homosexuel et vient de être de la jaquette, être de la pédale. Mais pour les esprits qui ne sont pas mal tournés, ce n'est qu'une expression banale. Oui, réagit Flora. Il y a les mots de Monsieur Verdurin au baron, le premier, sans malice, voulant parler de ceux qui sont indifférents aux bagatelles mondaines. Et s'emparant du livre. Excusez-moi de vous parler de ces riens, commença-t-il, car je suppose bien le peu de cas que vous en faites. Les esprits bourgeois y font attention. Mais les autres, les artistes, les gens qui en sont vraiment, s'en fichent. Or, dès les premiers mots que nous avons échangés, j'ai compris que vous en étiez. Monsieur de Charlus, qui donnait à cette locution un sens fort différent, eut un haut-le-corps. Après les œillades du docteur, l'injurieuse franchise du patron le suffoquait. « Ne protestez pas, cher monsieur. Vous en êtes, c'est clair comme le jour, » reprit monsieur Verdurin. « Remarquez que je ne sais pas si vous exercez un art quelconque, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas toujours suffisant. De Grange, qui vient de mourir, jouait parfaitement avec le plus robuste mécanisme. Mais n'en était pas. On sentait tout de suite qu'il n'en était pas. Brichot n'en est pas. Morel en est. Ma femme en est. Je sens que vous en êtes. Qu'alliez-vous me dire ? Interrompit Monsieur de Charlus, qui commençait à être rassuré sur ce que voulait signifier Monsieur Verdurin, mais qui préférait qu'il criât moins haut ses paroles à double sens. Farid sécha. Et c'est le docteur Dickinson qui rebondit en apprenant et en prenant l'ouvrage des mains de la Marseillaise. Il y a la proposition de Madame Verdurin au même de se joindre à la promenade en voiture, se concluant par « Est-ce que vous en êtes ?» Le baron, qui n'entendit que cette phrase. Et ne savait pas qu'on parlait d'une excursion à Arambouville, sursauta. Étrange question, murmura-t-il d'un ton narquois, par lequel Madame Verdurin se sentit piquée. La mémoire revint à Farid, qui, tournant les pages, cherchait le passage où Robert dit ne pas connaître les Verdurin. Je trouve ce genre de milieu cléricaux exaspérant. Je ne compris pas d'abord l'adjectif clérical appliqué au Verdurin. Mais la fin de la phrase de Saint-Loup m'éclaira sa pensée. C'est concession à des modes de langage qu'on est souvent étonné de voir adoptés par des hommes intelligents. Ce sont des milieux, me dit-il, où on fait tribu, où on fait congrégation et chapelle. Tu ne me diras pas que ce n'est pas une petite secte. On est tout miel pour les gens qui en sont. On n'a pas assez de dédain pour les gens qui n'en sont pas. La question n'est pas, comme pour Hamlet, d'être ou de ne pas être, mais d'en être ou de ne pas en être. Tu en es, mon oncle Charlus, en est. Que veux-tu ? J'ai jamais mis ça, ce n'est pas de ma faute. Bien vu, mais est-ce tout ? Interrogea Madame de Custières. Vous omettez la variante « marchent-ils ensemble ?» à propos de deux hommes. Dans la bouche, décidément, de Madame Verdurin, qui n'y mettait aucune malice. Elle était certaine des mœurs du baron, mais quand elle s'exprimait ainsi, elle n'y pensait nullement. Mais seulement à savoir si on pouvait inviter ensemble le prince et Monsieur de Charlus, si cela corderait. Elle ne mettait aucune attention malveillante dans l'emploi de ces expressions toutes faites, et que les petits clans artistiques favorisent. Vous comprenez, il ne faut pas qu'ils restent immobiles comme des moules, il faut qu'ils aillent, qu'ils viennent, qu'on voit le branle-bas, je ne sais pas le nom de tout ça. Mais vous, qui allez souvent au port de Balbec-Plage, vous pourriez bien faire une répétition sans vous fatiguer. Vous devez vous y entendre mieux que moi, monsieur de Charlus, à faire marcher des petits marins. Mais après tout, nous nous donnons bien du mal pour M. de Guermantes. C'est peut-être un imbécile du jockey. Oh mon Dieu, je dis du mal du jockey. Et il me semble me rappeler que vous en êtes. Eh, baron, vous ne me répondez pas. Est-ce que vous en êtes? Vous ne voulez pas sortir avec nous? Tenez, voici un livre que j'ai reçu. Je pense qu'il vous intéressera. C'est de Rougeon. Le titre est joli, « Parmi les hommes ». Proust, as définitif de la pirouette finale. Au dessert, les convives se régalèrent. Les subjonctifs imparfaiteuses de savarin au rhum, crème fouettée, Madame de Custières d'un gâteau au chocolat, au croustillant de pralin, glace noisette et craquelin. Patrick Dickinson d'un soufflet glacé à l'orange et au grand marnier. Farid et Valentin, enfin, de tarte tatin, crème fraîche et glace aux pommes confites. La note fut salée, fut réglée par le Britannique.